Je suis au Festival de Locarno, exactement sur la terrasse du Belvédère, en train de surplomber le lac majeur, avec Taufik, Toufik comme ils disent dans la conférence de presse. Voilà, Jalab, qui est l'acteur du film de Nadir Moknesh avec Fanny Ardant. Donc Lola Pater, qui va être présentée ce soir au public sur la Piazza Grande. Alors Taufik, comment est arrivé ce projet et qu'est-ce qui vous a motivé à accepter le rôle de Zino ?
Il est arrivé assez naturellement par le biais de mon agent qui m'a fait lire le scénario et qui m'a envoyé faire un casting, un bout d'essai pour Nadir. J'ai lu le scénario, je suis tombé en amour pour ce personnage. Et puis moi je connaissais très bien le cinéma de Nadir, j'avais vu tous ses films et puis j'avais... une très bonne amie à moi, Loubna Azabal, qui joue d'ailleurs le rôle de ma mère dans le film, qui avait déjà travaillé avec lui et qui m'avait parlé de la manière dont il travaillait, à quel point elle avait été heureuse de tourner avec lui. Et du coup, ça m'a encore plus motivé pour réussir mes essais, pour bien apprendre mon texte et pour être prêt le jour J. J'ai eu la chance qu'il ait apprécié ce que je lui avais proposé.
Et t'as fait, qu'est-ce que vous avez en commun avec Zino ? Est-ce que vous avez quelque chose avec ce personnage ?
Le fait d'être parisien, le fait d'aimer la moto, je crois le fait d'avoir un lien très fort avec ma mère, un amour inconditionnel pour ma mère. Et je crois que c'est les choses qui nous réunissent, Zino et moi, en tout cas... En tout cas, je crois que c'est les premières choses qui me sont venues à l'esprit quand j'ai lu le personnage. Après, le reste, c'est assez lointain.
Et comment avez-vous travaillé avec Nadir, justement ? Quelle est sa méthode ? Est-ce qu'il est à l'écoute des suggestions de ses acteurs ?
Il est très à l'écoute, parce qu'il faut savoir que le personnage de Zino, à la base, il était... il est travaillé dans... Je vais demander à... Pierre-Fetchel, excusez-moi, c'est possible d'avoir une bouteille d'eau ?
Oui,
gazeuse
naturel.
Naturel, s'il vous plaît. Grazie. À la base, Zino, il travaillait dans un taxiphone, il vendait des téléphones, il les réparait. Il se déplaçait en métro. Et je me suis vu lui dire, en réfléchissant au scénario, est-ce que c'était pas plus intéressant d'en faire autre chose ? D'éviter une forme de caricature de ce qu'on peut imaginer comme un personnage d'origine algérienne qui pourrait travailler dans un taxiphone. Et il s'en est très vite rendu compte. Et c'était pas son intention, mais il avait juste trouvé ça assez facile à résoudre, une petite vie. Et là, on a décidé qu'il travaillait dans la musique. Et lui, Nadir, s'est dit, bon bah, il sera accordeur de piano. Et c'est là que j'ai vu ses yeux briller. Il s'est dit, oui, effectivement, il y a un scénario, il est toujours en vie, toujours en mouvement. Et je l'ai vu que ça lui redonnait une forme d'énergie.
D'impulsion.
On était à une époque où le film avait beaucoup de mal à se monter financièrement. Et petit à petit, il lui a rajouté une moto. Il en a fait un personnage hyper urbain. Il a décidé de l'habiller avec une veste en cuir, avec des bottes. D'avoir cette espèce d'appartement sur les hauteurs, sur les toits parisiens. Et tout ça, c'est venu grâce à Nadir et surtout au fait qu'il était hyper attentif aux propositions et qu'il n'était pas contre, que c'était un échange pour lui, la relation entre un acteur et le metteur en scène. Et c'est hyper rare dans ce métier d'avoir des gens aussi ouverts d'esprit.
Et quand justement vous parlez de moto, quand il descend sur la côte pour retrouver sa mère, qui était son père, on va pas tout dévoiler.
Son père qui est devenu
une femme.
Une femme.
Ça devait vous plaire aussi les décors, enfin pouvoir sillonner comme ça.
Bah le challenge c'était déjà que j'avais pas le permis moto moi. J'ai dû passer le permis moto en 2 semaines.
Bravo.
Et que j'avais une pression énorme. C'était en plein hiver à Paris. Les routes étaient verglaçantes, il pleuvait tous les jours. Et j'avais qu'une seule idée en tête, c'était de pouvoir faire toutes ces séquences et de ne pas être doublé par un cascadeur ou quelqu'un qui conduisait une moto. Et je l'ai eu. Et du coup, ça a facilité la vie de tout le monde. Merci beaucoup. Et il a pu faire ses plans sur moi, sur Fanny, moi avec Fanny sur cette moto. Et puis moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à conduire cette magnifique moto dans le sud de la France.
Je rebondis sur ce que vous dites. Tafik, vous parlez de Fanny. Oui. Alors, jouer avec une actrice avec une telle carrière, c'était intimidant ?
C'était intimidant sur le papier. Ça l'était moins à sa rencontre. Fanny, c'est quelqu'un d'extrêmement simple, qui met vite à l'aise. Mm-hmm. Alors forcément, j'avais une forme d'anxiété à l'idée de la rencontrer. Et tout s'est vite dissipé quand je l'ai rencontrée chez elle, dans son grand appartement avec Nadir. Il y avait de la musique, il y avait des enfants qui jouaient, il y avait quelqu'un qui faisait à manger. Quelque chose de très méditerranéen dans l'accueil.
Et, l'hospitalité.
L'hospitalité, exactement. Et forme de générosité dans la manière qu'elle avait d'accueillir ces étrangers chez elle. Et forcément, ça touche et on se sent très vite à l'aise. Puis sa générosité aussi quand elle joue aussi. Son regard, la manière qu'elle a de parler, de répondre.
Et là, donc, je parlais en début d'interview que vous êtes ici pour la présentation du film ce soir sur la Piazza Grande. Quel sentiment éprouvez-vous ?
Une grande fierté. Je connaissais la Piazza Grande de nom. J'ai des amis qui sont venus au Festival de Locarno et qui m'ont parlé de cette fameuse place, de cette immense scène, cet immense écran, le nombre de spectateurs qu'il pouvait y avoir. Alors moi, la première question, c'est « mais s'il pleut ?» Et là, en arrivant, je suis hyper heureux de trouver le soleil et de me dire que ça va bien se passer.
Avec une température presque méditerranéenne ?
Ça tombe bien.
Et est-ce qu'on peut parler justement... est-ce que vous avez une relation avec la Suisse, le public suisse ?
J'ai une relation avec la Suisse parce que j'ai joué beaucoup au théâtre en Suisse. Des pièces de Wajdi Mouawad, qui est un auteur libanais québécois.
Au Forum de Mérin, par exemple.
Au Forum de Mérin, effectivement, ma première au Forum de Mérin. Et ensuite, on a été joué à Neuchâtel, à Bâle. Et j'ai toujours aimé la Suisse, c'est un endroit très particulier. La Suisse, un peu hors du temps, avec un rythme de vie qui est très calme, qui apaise. Et puis je sais pas, j'aime bien la Suisse, je trouve ça cool.
Est-ce qu'on peut parler de votre carrière ? Justement, vous mentionnez le théâtre, il y a le cinéma.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous mentionner en tout cas les temps forts ?
Alors, au théâtre, ça a été vraiment après le Conservatoire National à Paris. J'ai directement intégré la troupe de Wajdi Mouawad et on a fait une tournée à travers le monde, au Japon, en Espagne, au Canada, en France, un peu partout en Suisse. Et ensuite pas mal de cinéma et un film qui s'appelait Né quelque part avec Jamel Debbouze, ensuite La Marche, un film de Nabil Ben Yadir, un belge, et ensuite d'autres films un peu plus musclés comme Le Convoi qui traitait des go fast. Et puis dernièrement un autre film au Canada qui s'appelle Les Exilés qui traite d'un exilé libanais qui se retrouve dans le froid polaire de Montréal en plein hiver. Et puis dernièrement, en Thaïlande, avec un film de Xavier Duringer qui parle de la cavale de 5 amis d'enfance dans une Thaïlande qu'on n'a presque jamais vue, très violente, hyper singulière, qui traite de la fraternité, de l'amitié avec Samy Bouajila. Voilà l'actualité, un peu ce qui se passe en ce moment pour moi.
Et vous avez des projets, bien évidemment.
J'ai un projet, je commence un film dans quelques semaines à Paris qui s'appelle Sun. Qui traite de la communauté pakistanaise à Paris. Je vais jouer c'est la communauté indienne, donc il traite de la communauté indienne, je vais jouer un indien. Un père indien et une mère peut-être algérienne, quelque chose comme ça. Et ça va traiter, c'est une comédie d'aventure, dans un Paris un peu rêvé, du 18e, du 10e arrondissement. Une petite chose qui est hyper hyper agréable à faire, c'est que ça va ressembler à ces films des années 70, assez drôle, assez musclé, et avec un vrai fond en fait, qui est de faire découvrir aussi une communauté dont on ne parle pas forcément toujours. Et voilà, c'est les prochains projets.
Une communauté qu'on connaît mieux dans le monde anglo-saxon en tout cas.
Oui, qui est complètement intégrée, qui a été maintes et maintes fois filmé là-bas de par le rapport avec les colonies en Inde. Là, la communauté indienne, les seuls derniers essais, c'était celui de Jacques Audiard, qui traitait de la communauté indienne, mm-hmm. Mais d'un autre point de vue, qui était plus la banlieue. Là, c'est autre chose. Là, c'est le Paris, mm-hmm. c'est les couleurs, c'est la vitesse, c'est la musique, c'est des situations. C'est un film très cosmopolite avec la communauté chinoise, avec la communauté black, avec la communauté arabe aussi. Mm-hmm. C'est ce Paris que nous, on connaît en tant que Parisiens, mais que peut-être les gens n'imaginent pas en regardant les cartes postales de la Tour Eiffel.
C'est un peu comme dans les pièces de théâtre que vous avez interprétées. Avec moi, je dis, c'est justement un monde, des fois, qui est insoupçonné pour le public.
Effectivement, c'est quelque chose qui est très lointain pour le public, qui n'arrive pas forcément à toucher ou à imaginer. C'est pas des quartiers dans lesquels on va se balader, c'est pas des quartiers dans lesquels on va manger, c'est pas des quartiers dans lesquels on va rencontrer des gens, on imagine ne pas rencontrer des gens. Et c'est pourtant des endroits dans Paris qui sont extraordinairement vivants.
Et enrichissants. Et
enrichissants, surtout. Et quand on croise des gens qui ont décidé d'aller en dehors des clous de ce qu'on imaginait comme le tourisme parisien, on ressort grandi en se disant « Mais en fait, Paris, c'est aussi ça. Mm-hmm. » Et je suis hyper content de traiter de ce sujet-là et de pouvoir... c'est aussi le cinéma, c'est pouvoir le faire traverser un film, le faire voyager et de leur montrer que Paris, c'est pas seulement la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, mm-hmm. les grands magasins, mais il y a aussi autre chose. Et il y a des gens qui viennent du monde entier et qui sont parisiens.
Et grâce à ce genre de film, je pense que ça permet aussi d'enlever les clichés, les connotations.
Effectivement, c'est la première chose qu'on essaye de faire, c'est de ne pas rentrer dans une forme de caricature, de communautaire. Là, on est dans l'exposition d'une réalité, mais sur un ton assez léger, qui est celui de la comédie d'aventure. Qui est celui d'une manière de filmer un Paris qu'on ne voit pratiquement jamais. Vous savez, les Américains, quand ils viennent filmer à Paris et qu'ils font des séquences, le champ, il est sur la Tour Eiffel et le contre-champ, on est à Montparnasse. Donc voilà, ça, on va éviter.
Déjà, dans le film de Nadir, pour y revenir, ouais. Depuis le balcon, là, on voit même la Grande Mosquée de Paris. Enfin, on a un aperçu de... d'endroits architecturaux quand même clés, mais autres que la Tour Eiffel.
Effectivement. C'est un quartier dans le 5e arrondissement qui est un logement social. Et ils ont, je crois, une des plus belles vues de Paris. Ils ont le dernier étage, on a un 360, on a un accès. Et puis c'est très très beau parce qu'on a la France dans son entièreté. On a la mosquée de Paris en face, on a la Tour Eiffel au loin, on a la gare Montparnasse et puis la grande tour. On a le Panthéon sur le côté, on a toute la richesse culturelle de Paris en un grand plan comme celui-là. Pour moi, c'est ça Paris avant tout. C'est cette mixité qui se trouve aussi dans l'architecture et qui se retrouve chez les gens qui parcourent les rues aussi.
C'est un brassage culturel qui, comme vous le décrivez, a l'air très réussi.
Ah oui, pour moi Paris c'est un exemple. Vraiment, c'est pas parce que je suis chauvin, un peu, je sais, je suis un peu chauvin, je suis très parigot, un petit peu. Mais c'est ce que j'aime dans cette ville. Et c'est ce que je regrette malheureusement, c'est que quand on décide d'aller voir un film et qu'on part de chez soi, qu'on croise ses voisins, qu'on descend les escaliers, qu'on décide de prendre le métro, qu'on va manger au restaurant et puis qu'on décide d'aller vous regarder un film, on a croisé tellement de gens. On a entendu tellement de langues, on a croisé tellement de couleurs, d'odeurs, que quand on s'assied dans le siège de cinéma et que l'écran commence à s'allumer, qu'on ne retrouve pas ça à l'écran. Moi, c'est ma plus grande tristesse, que ce soit à la télévision, que ce soit au théâtre, que ce soit dans les publicités qu'on peut voir, c'est qu'il n'y ait pas cette retranscription de ce qu'on vient de vivre en allant... c'est une aventure, et on ne le retrouve pas. Et ça, c'est une grande tristesse pour moi. C'est un combat de tous les jours, vraiment, et je le souligne aussi souvent que je le peux.
Et puis d'ailleurs, je rebondis sur vos propos, malheureusement ce combat est important puisque à l'heure actuelle, beaucoup de politiciens ont tendance à vouloir formatiser les gens et à oublier ce côté bigarré de la société.
Ouais, oui, c'est quelque chose qui a une tendance à s'accentuer avec les années alors qu'on a l'impression que les gens ne sont jamais aussi mélangés. Enfin moi, je quand je marche dans la rue... Je le remarque en fait plus en voyageant, plus je voyage à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit un peu partout ailleurs. C'est très communautaire. Les latinos restent avec les latinos, les blacks avec les blacks, les asiatiques avec les asiatiques. Et c'est pas ce qu'on voit à Paris. Mmh. C'est pas ce qu'on voit en France, dans les grandes villes en tout cas. Et je suis toujours étonné de pas voir qu'on réussit notre mixité sociale, qu'on n'arrive pas à l'adapter, à la rendre visible à l'écran, sous les projecteurs, et les gens ne puissent pas encore s'identifier. Et ça, c'est dommage, parce que la société a fait sa part de chemin, a fait son travail, les gens se mélangent. Et on a un fossé avec dès que c'est montré à l'écran, il y a un vrai fossé qui s'installe, et tout le travail est là. En tout cas, je crois que le travail d'un metteur en scène, d'un écrivain, d'un comédien, d'un metteur en scène, d'un musicien, mais c'est ce travail-là. C'est de rendre ce qu'on voit dans la rue plus lisible pour les autres, de montrer une forme d'ouverture. C'est à cet endroit-là.
Que le cinéma devienne, ou le théâtre devienne reflet de la société.
Oui, je crois que c'est le message premier. En tout cas, c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est le seul endroit où le reflet de la société... et à portée de main. Et c'est important, même dans les petites villes, de voir à quoi ressemble une grande ville, Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille. Et que ce soit pas forcément dans une forme de... Que ce soit biaisé par des faux reportages qui caricaturent une communauté ou une autre, ou une catégorie de personnes. Et que le cinéma, c'est un endroit de vérité. Où on ne peut pas mentir. Alors je parle du cinéma, mais ça va avec le théâtre aussi. Je mets le théâtre à l'intérieur.
Ou toute forme d'expression artistique.
Toute forme d'expression artistique, c'est sûr. Mais les plus populaires sont le cinéma et la musique. Le théâtre est encore un peu étriqué, malheureusement. Il a tendance à s'ouvrir, mais ça prend plus de temps. Un film parle à beaucoup plus de personnes qu'une pièce de théâtre. Les plus grandes salles dans lesquelles j'ai joué, c'est 1000 personnes. Avant d'atteindre 1 million de spectateurs au cinéma, combien en faut-il pour faire du théâtre, pour toucher 1 million de personnes?
Ce soir, vous en aurez beaucoup sur la piazza. Et encore quelques mots, là, le cinéma et le monde du théâtre ont été touchés, endeuillés. Il y a eu bien sûr Claude Rich, récemment Jeanne Moreau. Ça me Shepard. Est-ce qu'il y a des acteurs, des comédiens qui vous ont amené à choisir ce métier?
Il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. Alors ça a été beaucoup des acteurs américains qui avaient tendance à nous ressembler. C'était du coup des Italiens, américains. C'est Al Pacino, c'est Robert De Niro. Ça a été beaucoup, pour moi, une révélation. C'était Gérard Depardieu. J'ai été un fan absolu la première fois où j'ai vu Cyrano de Bergerac. Je ne comprenais pas la moitié de ce qu'il disait à l'époque. J'étais un gamin, mais j'étais fasciné par le panache de cet acteur.
Mise en beauté par Rapneau,
c'est extraordinaire. Et puis l'histoire, et puis tout ce qui va avec. Ensuite des actrices, Fanny Ardant, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, pour moi, pour mon époque, la première image que j'ai, c'est la Jeanne Moreau dans Nikita, qui apprend à Anne Parillo à être femme. C'est pas celle de Julie Jim. Et elle est Julie Jim pour plein d'autres personnes. Mais pour moi, c'est le film de Luc Besson. C'est cette femme, cette voix, qui apprend à sourire à une femme meurtrie dans un miroir, en passant son doigt délicatement sur sa joue pour essayer de voir une brindille s'illuminer. C'est elle pour moi, Jeanne Moreau aussi.
Merci Tawfik. Alors, il n'y a plus qu'à vous souhaiter tanti auguri per stasera in piazza.
Grazie mille.
Je respecte l'horaire, je ne sais pas si Diana est en train d'attendre.
Elle est là.
Ah ben voilà, on est à l'heure.
Ah bah. Tu fais une photo?
Non, c'est fait déjà.
Ah bon, alors on y va?
C'est bon.
On continue.
On a commandé du champagne.
Ouais.
Bien fait.
Ça arrive.
Et voilà. Puis, les médias arrivent et nous on continue.
Okay.